C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc, c'est un très grand organisme de recherche qui regroupe énormément d'équipes en France qui sont réparties sur tout le territoire et qui a de vastes sujets de recherche, que ce soit en génétique, que ce soit en neurologie, en rhumatologie. Ça touche à tous les domaines de la biologie appliquée à l'homme. Voilà.
Vous êtes vous-même chercheur en gastro-entérologie. Sur quoi vous travaillez en ce moment?
Alors moi je travaille sur plusieurs choses. Globalement, je travaille sur la physiologie et la physiopathologie du tube digestif, c'est-à-dire comment ça fonctionne et comment ça se dégrade. Et je m'intéresse à des molécules, ce sont des molécules de la bile, qui ont plein de rôles, qui ont des rôles métaboliques, qui ont des rôles de régulation de la perméabilité de l'intestin. Donc globalement, je travaille également sur le microbiote, c'est-à-dire les bactéries, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont contenus dans un intestin. Et je travaille sur ces variations dans certaines pathologies digestives.
Alors avant de parler de lui, est-ce que c'est possible de décrire un peu synthétiquement le système digestif?
Le système digestif, pendant très longtemps, on nous a dit ça ne sert qu'à une chose, ça sert à digérer. Et donc on ingère des aliments en haut solides et ils sortent en bas après avoir été digérés. Et entre les deux, on a métabolisé et surtout absorbé. Et on sait maintenant que c'est beaucoup plus complexe et qu'on considère de plus en plus comme une glande qui intervient dans la régulation de fonctions métaboliques. Ce n'est plus seulement quelque chose qui sert à absorber. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on disait on peut en couper un mètre, tu verras, c'est exactement la même chose. Maintenant, on dit on peut en couper un mètre, mais on sait qu'il y a beaucoup de rôles et que c'est beaucoup plus complexe qu'avant. C'est aussi une barrière, c'est-à-dire l'intestin, c'est une barrière entre l'extérieur et donc le milieu extérieur, c'est les bactéries, les microbes, et l'intérieur qui est notre organisme. Et pendant longtemps, on a dit que cette barrière était hermétique, c'est-à-dire qu'il y avait les microbes d'un côté, l'intestin de l'autre, et aucun passage. Mais nous sommes des macrobes, nous avons grandi autour des microbes, ils étaient là bien avant nous. Et en fait, ça implique nécessairement des interactions. Et c'est très intéressant de voir se développer l'étude des interactions entre justement ces bactéries de l'intestin qui sont en très grande majorité bénéfiques. C'est peut-être 0,1% des microbes d'intestin qui sont potentiellement pathologiques, c'est-à-dire méchants, d'étudier les échanges, ce qu'on appelle le dialogue entre l'hôte, c'est nous, et le microbiote, les intestins, et le microbiote, pardon, des bactéries qui probablement portent énormément de fonctions. Je suis clair ou pas?
Relativement clair pour un profane. Vous allez animer une conférence gratuite ce vendredi à 19h à Émoutiers. Cette conférence s'intitule « Parle à mon côlon, ma tête est malade ». Pourquoi un titre aussi provocateur pour une conférence sur le système digestif?
Alors, parce que je travaille aussi sur les relations entre le cerveau et l'intestin. Quand on va passer son baccalauréat, il y en a la moitié qui sont constipés, la moitié ont la diarrhée, tout le monde a mal au ventre. Donc pendant longtemps, on a dit « bon, c'est dans ta tête, etc., ça n'a pas d'intérêt ». Et notamment dans une maladie qui s'appelle l'intestin irritable. Ce sont des gens qui ont tout le temps mal au ventre, tout le temps les troubles du transit, qui ne sont pas en état de danger, mais qui sont extrêmement gênés. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des relations entre le cerveau et l'intestin. Ça date de Pavlov, c'est-à-dire que stimulation sonore, visuelle, et le chien se met à sécréter de l'acide gastrique alors même qu'il n'a rien avalé. Ce sont des études qui ont été menées il y a longtemps et qui sont complètement passées de mode il y a 30 ans, à cause de la découverte du microbe qui donnait l'ulcère, que tout le monde travaille sur l'ulcère, du jour au lendemain on vous donne la solution, du jour au lendemain on arrête de travailler. Et bien l'intérêt a repris récemment, notamment avec l'essor de l'hypnose et avec l'étude du microbiote, dont on sait qu'il est probablement impliqué dans les troubles du transit et potentiellement aussi dans la perception de la douleur viscérale. Donc ce titre provocation, c'était, pour reprendre une expression populaire, mais en la détournant, parle à mon côlon, parce que quand on parle du côlon irritable, c'était pour faire ce petit parallèle, et ma tête est malade, parce que ça fait le lien entre tout le système nerveux central et le côlon.
Alors quel lien exactement notre système digestif entretient-il avec notre cerveau, et comment dialoguent-ils tous les deux? Par quels moyens? De quoi ils parlent?
Ils parlent probablement de plein de choses et on ne sait pas tout. D'abord entre les deux, il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est un axe de communication, et c'est surtout un axe qui remonte des informations au cerveau. C'est-à-dire que majoritairement, les neurones remontent et il y a un petit peu de contre-ordre, on va dire, dans notre sens. Et bien, ils discutent de perméabilité, ils discutent, c'est-à-dire ce que je vais laisser passer ou pas, ils discutent d'inflammation, très probablement. Donc l'inflammation, ça peut être pathologique ou ça peut être normal, comme la défense contre les microbes. Ils peuvent notamment parler de stress. C'est clair que le stress influe sur le transit en l'augmentant, voire chez certains en le diminuant. Et donc, via ce nerf vague, les deux dialoguent. Et au milieu, il y a ce troisième acteur qui s'appelle le microbiote, qui est venu se greffer un peu récemment au milieu du dialogue. On sait notamment que les microbes sont capables de synthétiser absolument tous les neuromédiateurs. Neuromédiateurs, c'est les molécules que votre cerveau utilise pour transmettre l'information, c'est-à-dire la dopamine, le GABA, la noradrénaline. Et bien, toutes ces molécules-là, les microbes de l'intestin sont capables de les synthétiser. Ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est décrire si le passage se fait vraiment des microbes à l'homme et comment ça influence.
Est-ce qu'on a tendance à négliger, voire même à oublier notre système digestif tant qu'il fonctionne bien?
Complètement. Aucun intérêt de savoir qu'il est en place vu qu'il fonctionne bien. Ça, c'est comme tout symptôme. C'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Pourtant, qui bouge tout le temps. Et il est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément envie de considérer. Quand vous regardez un cerveau humain qui a l'air noble, bien organisé, et qu'à côté, vous regardez la tête d'un intestin, c'est pas très, on va dire, ragoûtant. Et donc, ça fait partie de ces organes qu'on considère comme pas très nobles. Simplement, le jour où ils fonctionnent moins bien, notamment dans le côlon irritable, assez rapidement, on est au courant, et là, forcément, on s'y intéresse.
Et est-ce qu'on peut dire que dans nos pays riches, on a une tendance à maltraiter carrément notre système digestif?
C'est un peu provocateur, c'est probablement une image, avec l'image de la malbouffe, avec l'image de la processed food, la nourriture industrielle. On peut dire que chez certains patients, on a tendance à manger trop de sucre, notamment ce qu'on appelle les sucres fermentés cibles et non absorbables, qui peuvent donner des troubles du transit. Maintenant, maltraiter sa nourriture, sachant qu'on est arrivé à un niveau quand même d'hygiène qui est absolument, d'hygiène et de traçabilité qui est quand même majeure. Si c'est pour revenir à une époque en culotte de peau où on pouvait attraper la typhoïde à tous les coins de rue, je pense que quand même, la nourriture n'est pas si maltraitante pour nos intestins à l'heure actuelle.
Et en termes de quantité, est-ce qu'on mange trop? J'avais lu qu'il y avait un temps de retard entre le moment où l'estomac était repu et le moment où cette information arrivait à notre cerveau.
Quelquefois discutable. Il suffit de regarder les courbes d'obésité pour savoir que oui, on mange trop. On a une accessibilité à la nourriture et on a un problème de diversification et quand même une tendance à manger trop de sucre et trop de lipides. Donc oui, on mange trop. Il y a une véritable épidémie d'obésité qui s'installe et dont le seul traitement à l'heure actuelle, c'est la chirurgie. Là-dedans, il y a l'acteur microbiote qui a l'air de jouer un rôle. Donc, de plus en plus, on s'aperçoit que ces fameuses bactéries régulent beaucoup ce qu'on absorbe et le pool énergétique qu'on ingurgite tous les jours. Mais je pense que oui, on mange trop.
Pour parler un peu des dérèglements de nos intestins, c'est quoi les pathologies les plus courantes du système digestif?
Alors, c'est quand même le syndrome de l'intestin irritable. Donc, on dirait que c'est entre 1 et 5% de la population générale. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est une dépense de santé monstrueuse. Ensuite, il y a des maladies plus rares, comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Et après, la plus fréquente de toutes, ça reste la gastro-entérite hivernale.
Alors, comment être bien à l'écoute de notre système digestif et comment comprendre les signaux qu'il nous envoie?
Alors, il envoie des signaux essentiellement quand il est malade. C'est-à-dire qu'il va s'accélérer, il va ralentir ou il va vous faire mal, ou éventuellement vous donner la nausée. Donc, être attentif, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que c'est lui-même qui, si vous avez trop mangé, si vous avez un syndrome d'intestin irritable, c'est lui qui va se manifester. En général, on n'a pas à courir derrière. Alors, il y a des expressions à la mode comme il faut prendre soin de son intestin, prendre soin de sa santé. On est plus dans la mouvance de essayons de manger diversifié et correctement. Mais c'est plutôt prendre soin de son organisme que de prendre soin spécifiquement de son intestin. Parce que l'intestin, c'est quand même une barrière qui est assez armée pour digérer énormément de choses.
Et vous disiez que l'estomac, l'intestin, le système digestif n'étaient pas considérés comme étant un organe noble. Comment, de votre côté, vous pouvez essayer de rendre ce système digestif plus glamour?
Si je vous liste les symptômes des consultations, les consultations ne sont absolument pas glamour. Hein. Mais il y a un livre qui arrive très bien, qui est « Le charme discret de l'intestin », qui est très amusant à lire parce que l'auteur qui est allemande a su justement aller vers un sujet qui est un peu tabou, un peu interdit, un peu pas noble, et en écrivant un livre très bien écrit, elle a pris le contre-pied. C'est-à-dire qu'elle a traité ce sujet de l'intestin, cette espèce d'organe justement pas noble, moche, un peu mystérieux et puis caché, et elle l'a brillamment décliné avec une prose très agréable à lire. Elle y est arrivée, je peux vous garantir qu'en consultation, quand un patient vient pour des flatulences, pour des roues, c'est beaucoup plus difficile de rentrer à glamour.
Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'INSERM, mais pas que. En tapant votre nom sur Internet, je suis tombé sur un ouvrage qui n'a rien à voir a priori avec l'intestin, intitulé Dieu 2.0. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Dieu 2.0 et quel rapport entre la gastro-entérologie et, je crois, de la science-fiction?
Alors, honnêtement, il n'y a absolument aucun rapport. Je peux vous dire, c'est que j'ai écrit ce bouquin quand je vivais au paradis, je vivais en Californie, j'étais parti faire une année de recherche. Et en fait, je suis quand même assez attentif à l'actualité et essayer de comprendre ce qui fait un peu tourner notre monde. Et à l'époque déjà, on avait les signes de ce qu'on allait se prendre en termes d'actualité terrible dans la figure. Et bah, vous savez, quand vous êtes gastro-entérologue, quand vous êtes hospitalier, quand vous travaillez à l'hôpital, vous rentrez chez vous dans un état de stress tous les jours absolument épouvantable. Mais quand vous êtes au laboratoire, même si c'est, il y a plein de boulot, c'est quand même une ambiance très très calme et très sereine. Et donc, à 21h, bah, vous ne pouvez pas dormir. Et donc, j'ai eu envie d'écrire ce bouquin, qui soit un bouquin qui parle de la modernisation de la religion, qui parle des extrêmes, qui parle de la place de la femme dans l'Église, mais en mode décalé, en mode contre-pied. Je ne voulais pas un bouquin avec des mitraillettes, je voulais un roman qui fasse passer un bon moment à ses lecteurs. Quand je dis décalé, par exemple, est-ce que Google est Dieu? Dieu, vous lui adressez 5 milliards de prières par jour, vous avez zéro réponse. Google, vous lui adressez une requête, vous avez, je passe à 100 millions de réponses. Bon, il n'y en a qu'une qui va vous servir à quelque chose. Il y a des mondes où Dieu a été remplacé par les avocats, où Dieu a été remplacé par la science, qui sont des mondes. Voilà, donc c'est un bouquin un peu contre-pied qui permet de réfléchir à cette actualité de manière un peu tranquille. Et tout ce que je peux vous dire de lien entre la gastro-entérologie et ce bouquin, c'est que on est en 2053. Et on a trouvé un moyen d'allonger l'espérance de vie avec une bactérie que j'ai appelée, baptisée Contraseculibacter afrigorée, et qui serait une bactérie qui permettrait d'allonger l'espérance de vie si on se l'administre par délavement. Alors c'est basé sur des travaux, et c'est vrai qu'il y a des Russes qui, il y a un certain temps, ont mis en évidence des bactéries qui, chez la souris, permettaient de prolonger l'espérance de vie.